Garand a échangé avec l'écologue Léo Broudic au sujet de l'érosion des récifs coralliens réunionnais.
Effectivement, Léo Broudic, c'est un écologue marin qui travaille à La Réunion. Il a travaillé sur l'évaluation spatiale des récifs coralliens, sur les liens de causalité entre pression environnementale et sur les solutions à apporter aux pouvoirs publics pour protéger ces récifs. Il fera ce soir, à 20h30, une conférence à l'espace des sciences des champs libres, les récifs coralliens sous surveillance. Parce que, oui, en France, il y a des récifs coralliens. On a souvent tendance à l'oublier, mais la France possède la deuxième plus grande zone économique exclusive du monde grâce à ses DROMCOM, territoires souvent oubliés. Et c'est donc grâce à ces territoires que 10% du territoire corallien mondial sont sous juridiction française.
En effet, la France a la particularité, de par son histoire coloniale, d'avoir des récifs dans les eaux pacifiques, océan Indien et les Caraïbes. Et l'état de santé de ces trois territoires est très hétérogène. Les récifs, par exemple, dans les Caraïbes, sont très très dégradés, voire on parle même pour certains endroits de... On ne parle plus de récifs coralliens pour ces endroits. L'écosystème a tellement changé, a tellement été modifié, que les communautés, c'est-à-dire les espèces qui composent cet écosystème, ne sont plus les mêmes. Et ce ne sont en l'occurrence plus des coraux, comme on l'entend dans les documentaires et à la télé. Ce qui fait que pour certains endroits dans les Caraïbes, on ne peut même plus parler de récifs coralliens. Mais heureusement, notamment dans le Pacifique, ça se porte relativement bien encore. Et dans l'océan Indien, c'est aussi hétérogène. Il y a des endroits comme la Réunion qui sont à un état d'avancement de dégradation assez important. Et des territoires comme Mayotte qui sont encore, eux, bien préservés, bien qu'en cours de dégradation quand même.
Un territoire corallien dans un état hétérogène, selon les zones géographiques et les différentes histoires des îles. On a parlé avec Léo Broudic des différents facteurs qui peuvent expliquer la dégradation des coraux.
La question est un peu complexe dans le sens où l'état d'un récif est aussi beaucoup dû à son histoire, à l'histoire même du récif corallien considéré pour chaque île. On peut prendre un exemple assez simple. La Réunion, c'est une île très jeune. Les récifs coralliens ont à peu près 8000 ans. Mayotte, à côté, c'est une île très vieille. Son sommet à 800 mètres, l'île a eu le temps de redescendre, et ce qui fait qu'en fait les zones où potentiellement il y a des coraux est beaucoup plus grande. Ce qu'on entend par lagon, à La Réunion, le maximum il fait 500 mètres de long, alors qu'à Mayotte on voit même pas de visu sur la côte, on voit même pas la barrière récifale tellement c'est loin. Ce qui fait que cette hétérogénéité s'explique par des facteurs complètement naturels, l'histoire de l'île et comment ça a été construit les récifs autour de ça. Et ensuite, ça peut s'expliquer avec les différentes pressions anthropiques, en l'occurrence, qui vont agir sur ces récifs. Et il y a différents types de pressions. Il va y avoir les pressions qui vont avoir en lien avec le changement climatique. On entend souvent parler, et de plus en plus, et heureusement, du réchauffement climatique et de l'augmentation de la température des océans. Et malheureusement, les coraux, comme on l'entend, avec un squelette, c'est-à-dire dur, ils vont avoir une tolérance très faible à l'augmentation de température. Pour eux, il leur faut un milieu entre 22 degrés et 30 degrés sur la température de l'eau. Si on commence à avoir une température trop élevée, qui dépasse les 30 degrés, ben là, il va avoir le phénomène qu'on appelle le blanchissement corallien, qui fait que les coraux vont être malades, voire tendance à mourir. C'est-à-dire qu'un corail, c'est un animal qui va vivre en symbiose avec des micro-algues. C'est-à-dire que si les micro-algues n'existaient pas dans le corail ne pourrait pas vivre tout seul. Du coup, les micro-algues sont indispensables à la survie du corail. Et cependant, quand il y a une augmentation de la température de l'eau, ben les micro-algues qui sont présentes dans le corail vont être éjectées par le corail. Le corail va produire des substances toxiques qui vont faire fuir les micro-algues. Et ce qui va donner en fait, ce qui va en résultat donner des coraux blancs, qui, s'ils restent trop longtemps comme ça, vont mourir. Ce qui fait que si la température de l'eau reste trop longtemps à plus de 30 degrés, ben, il va y avoir les récifs, à l'échelle d'un écosystème, ou d'une île plutôt, vont avoir tendance à péricliner. Et ces épisodes de réchauffement climatique ou de réchauffement de l'eau plutôt, vont pouvoir être localisés. Et en effet, dans les Caraïbes, il peut y avoir des épisodes plus importants. Dans le Pacifique, au niveau de territoire australien, en effet, là aussi, il y en a pas mal. Et il y a des endroits qui sont un peu plus épargnés pour le moment, même si les épisodes sont de plus en plus intense et récurrent. Dans l'océan Indien, on en compte plusieurs épisodes, mais qui ont eu des répercussions moins importantes. Ça, c'est un impact à l'échelle globale, mais il va avoir aussi des impacts à l'échelle locale. C'est-à-dire que chaque île ou chaque territoire côtier va avoir un aménagement du territoire, une manière de vivre l'île ou la côte qui va faire que ça va polluer ou non l'eau qui retourne dans le récif. C'est-à-dire que si dans notre territoire on a plein de pesticides, on a plein d'hydrocarbures, on a plein de pollutions diverses et variées, de produits pharmaceutiques, etc., quand il pleut, la pluie elle va récupérer tous ces petits produits qu'on trouve sur le sol et elle va s'éjecter dans le récif. Sauf que les coraux, comme à l'instar de la température, ils sont très sensibles à l'apport de nutriments dans l'eau. Ce qui fait que s'il y a beaucoup de nutriments dans l'eau, les coraux ils vont pas aimer, ils vont avoir tendance soit à être malades, soit à mourir ou à stopper leur croissance. Ce qui en parallèle est très favorable à d'autres organismes, comme les algues ou les coraux mous, un optite de corail mais qui lui ne construit pas les récifs, et tout plein d'autres organismes qui vont prendre l'espace en fait, à la place des coraux. Ce qui fait qu'on se retrouve après dans une situation où on va avoir une communauté d'espèces qui ne sera plus dominée par des coraux durs, mais par d'autres organismes à cause de la pollution de l'eau.
Le facteur anthropique donc, ou les traces que laisse notre société et nos modes de production, qui sont donc responsables à différentes échelles, et pas uniquement par le dérèglement climatique, de la dégradation des récifs coralliens. Mais grâce aux réseaux de surveillance, les écologues peuvent régulièrement alerter les pouvoirs publics et proposer des solutions.
Et s'ils sont dégradés, est-ce que c'est naturel? Dans le sens où c'est la houle qui le fait, du coup nous on ne va pas agir dessus. Si c'est l'histoire du récif qui le veut, on ne va pas agir dessus. Mais par contre, si c'est dégradé à cause d'une qualité de l'eau due à des pratiques agricoles ou à une sururbanisation, là on va pouvoir commencer à réfléchir, à se dire peut-être il faudrait redéfinir ou en tout cas réimaginer la manière d'habiter le territoire pour freiner et même annihiler cette pression pour que le mauvais état de santé redevienne naturellement, dans un premier temps, en bon état de santé. Mais si en effet la dégradation est telle que l'écosystème n'est plus autonome pour revenir à un bon état de santé, là on pourrait réfléchir à des systèmes, à toutes les méthodes de restauration, comme le fait de bouturer des coraux. Parce que les coraux, au final, ça marche un petit peu, pour vulgariser, comme des arbres. Si on a notre corail qui a plein de branches, on lui casse une branche, on la remet dans un milieu favorable, la branche va repartir d'elle-même. Et c'est des méthodes qui sont pas mal utilisées et développées à l'heure actuelle sur la restauration corallienne qui pourraient être aussi des solutions dans les endroits où l'eau, justement, n'est plus polluée.
Malgré les conseils que leur envoient les écologues, les pouvoirs publics peuvent parfois envoyer des messages négatifs et mener des projets destructeurs. La nouvelle route littorale, donc, à La Réunion, en est un bel exemple.
C'est une belle blague. C'est plus de 2,5 milliards d'euros. C'est un chantier qui n'est pas terminé, qui ne sera pas terminé, en tout cas je l'espère. Et on peut dire qu'on a évité le pire, dans le sens où le projet était de faire une moitié, 4 km en viaduc, et l'autre partie en digue. Une digue, littéralement, c'est mettre de la terre sur de l'eau. Ce qui veut dire un amas de matière assez conséquent pour combler la profondeur et construire une route dessus. Ce qu'il faut, c'est une quantité monstre, du coup, de roches. Pour ça, au début, quand le projet a commencé, ils n'avaient pas les autorisations d'exploiter des carrières sur l'île. Et ils ont anticipé la chose en disant que l'autorisation se ferait d'elle-même. Ça n'a pas été le cas. Il était prévu d'ouvrir différentes carrières, et notamment la fameuse carrière de bois blanc, où il y a eu, où en fait, elle était vraiment à proximité des récifs coralliens. Ce qu'on peut imaginer, un trou d'un diamètre de plusieurs kilomètres qui est complètement à nu, en période cyclonique, c'est des quantités d'eau qui lessiveraient le sol et qui prendraient toute cette matière de poussière, de terre et du coup d'hydrocarbures qui va avec les tracteurs et tous les types de pollution qui peuvent aller avec, qui se retrouveraient dans le lagon, dans le récif, et ça ferait ce qu'on appelle des coulées de boue, où littéralement, en fait, on ne voit même pas sa main dans l'eau, tellement l'eau est opaque. Et heureusement, grâce à des collectifs d'associations qui ont mené en justice l'affaire, ils ont eu gain de cause et empêché l'exploitation de l'ouverture en fait de cette carrière. Toutefois, la nouvelle route du littoral, la partie viaduc, est construite hors des zones qu'on peut dire récifales. Du coup, l'impact est moindre. Cependant, il existe quand même ce qu'on appelle le banc des lataniers. C'est un spot où il y a un petit récif qui s'est construit. Et c'est une zone à enjeu. Et différentes mesures ont été mises en place pour réduire les impacts sur ce spot. Et notamment des filets antiparticules ou des rideaux à bulles. Mais là, c'était plus pour éviter le son par rapport aux cétacés. Mais c'est dans les faits théoriques. Et dans les faits concrets, au final, on a très vite revu le filet complètement cassé, le filet antiparticules, qui n'était plus du tout effectif et qui s'est même retrouvé dans le banc des lataniers, dans la zone à protéger. Du coup, leurs mesures de réduction étaient complètement inefficaces, voire un danger supplémentaire pour les récifs.
Cette petite victoire du collectif écologiste de La Réunion est un des exemples de ce qui peut faire changer les avis des institutions. Et selon Léo Broudic, ce sont rarement les chiffres des scientifiques qui les font changer d'avis.
À mon avis, les scientifiques, les écologues sont essentiels au débat public. Leur position et les données qu'ils apportent doivent être considérées, pas toujours bien sûr respectées à 100%, parce que bien sûr il y a plein d'autres facteurs socio-économiques à considérer. Par contre, le bémol ou l'avantage, c'est que ces scientifiques ne sont que des conseillers. C'est-à-dire qu'on peut prédire dans les années 60 le réchauffement climatique et n'en avoir rien à carrer dans la politique qu'on utilise. Ce qui fait qu'on aboutit en 2022-2023 avec la sixième extinction de masse, ce qui fait que l'avis des scientifiques n'a pas été suivi. Et le parallèle pour dire que oui, les scientifiques ont leur place évidente, et notamment les écologues, dans le débat public, mais à eux seuls, ils ne peuvent rien faire. C'est la mobilisation citoyenne qui, derrière, doit faire pression sur les pouvoirs publics, sur les politiques, pour que ces avis scientifiques, si les pouvoirs publics, la mobilisation citoyenne considère que c'est du bien commun et du bien-être pour tous, se mobiliser et mettre des actions en place diverses et variées. Et c'est de par cette diversité de luttes qui peut faire pression sur les pouvoirs publics et la nécessité de les mettre en place. L'écologue a sa place autour de la table avec les politiques, mais il faut que l'écologue soit soutenu, si la mobilisation citoyenne le veut bien, par le reste de la population.
Merci à Léo Broudic d'avoir répondu à nos questions. On vous rappelle qu'il fera ce soir sa conférence sur la surveillance des récifs coralliens à 20h30 à l'espace des sciences des champs libres. Vous pourrez aussi suivre la conférence en ligne sur le site des Champs Libres, en direct ou ensuite en replay.